Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans Saderail, l'émission où tous les chroniqueurs se font dézinguer dans les commentaires. Grosse émission aujourd'hui avec le débrief du Tour des Flandres. Et cette question, avec cette troisième victoire, Mathieu Van Der Poel est-il le plus grand coureur du Ronde? Et puis dans la deuxième partie, direction les pavés de Roubaix, mais pas trop vite d'ailleurs. Prochain monument, est-ce qu'on va voir la passe de 3 pour Alpecin? Réponse tout à l'heure. On parlera aussi des filles, bien sûr, avec la victoire de Longo Borghini et la déception Kopecky. C'était donc sur le Tour des Flandres féminin et du Tour du Pays Basque, bien sûr, parce qu'on va en parler dans Attaque, on n'attaque pas. Un gros programme avec un très gros casting, le retour de l'homme qui est resté à la porte il y a 2 semaines, Jérémy Sakian était avec nous. Bonjour Jérémy.
Salut Johan, salut à tous. Bah tu vois, aujourd'hui j'ai pas pris de risque, je suis resté chez moi.
Est-ce que t'as besoin du code ou pas aujourd'hui? C'est pour savoir. Tout va bien
Le code toi, on a l'impression que t'es dehors. Hein.
Alors vous parlez tous en même temps.
Mais pour la prochaine fois, oui, n'hésite pas à me renvoyer le code avant que je sois en bas en train de sonner perdu.
Sache qu'il pleut en plus aujourd'hui, tu serais resté à la porte encore une fois. Il est là, on l'a entendu aussi, il enchaîne les émissions, voilà ce que je voulais dire, hein, au contraire de Rémi Dos Santos, mais il défend quand même les couleurs du Portugal, hein, puisque c'est un grand fan de Morgado. Théo Barbet-Duquil est avec nous aujourd'hui. Salut Théo.
Salut à tous, grosse première partie de saison, là, faut que je parte en stage après.
Eh bah oui, t'as raison, bah tu vas pouvoir signer chez Visma si tu pars en stage tout le temps. On va aller très vite parce que tout à l'heure, il y a une finale de Ligue des Champions entre Lyon et Valenciennes, donc on va aller au plus vite, on va vous accompagner avant cette superbe affiche. On va parler cyclisme avant et puis le football, ça sera pour plus tard.
Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein.
Il était le grand favori, il a assuré. Mathieu Van Der Poel s'est adjugé donc un troisième Tour des Flandres. Après une course, tiens, la première question, après une course parfaite, Jérémy ?
Oui, une course parfaite de Van Der Poel et une course parfaite de son équipe.
Théo, pareil, est-ce que tu penses la même chose ? Est-ce qu'Alpecin a parfaitement manœuvré lors de ce deuxième monument de la saison ? Parce qu'on a eu peur quand même à quelques moments, puisque on a vu quelques balbutiements, on a perdu quelques équipiers, une crevaison de Søren Krag Andersen. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné ?
Non, moi j'ai pas mieux, parce que de toute façon, je suis pas sûr qu'on ait tenté grand-chose de la part des autres équipes, à part les Visma et à part les Lidl. Mais Pedersen a couru un peu comme un âne, d'ailleurs il l'a reconnu. Et surtout, même si sur le papier son équipe Alpecin n'était pas forcément la plus forte sur le papier, je trouve qu'elle a répondu présente. Je trouve qu'on a bien switché un garçon comme Axel Laurent, c'était pas prévu sur le Tour des Flandres, et on s'est adapté jusqu'au dernier moment pour donner la meilleure équipe possible à Van Der Poel. Et puis voilà, de toutes les façons, il y a une marge tellement énorme, je trouve, entre ce qu'il y avait de concurrence et Van Der Poel, ce qui fait qu'en fait, même si tu as un petit train de retard, comme on l'a vu à un moment faire le jump sur un mont, Bah, ça fait qu'on corrige assez rapidement les petites erreurs, mais pour moi, il n'y a pas eu de grosses erreurs. C'est parfait et de Van Der Poel et parfait de l'équipe Alpecin.
Jérémy, est-ce que tu as eu peur en regardant la course? Est-ce que tu as craint pour la victoire de Mathieu Van Der Poel qui s'est envolé ensuite dans le Koppenberg? Mais avant, il y a eu quand même quelques attaques. On a vu Pedersen, bon certes, derrière, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais bon, on a tenté quelque chose de la part des concurrents.
Je pense qu'à une centaine de kilomètres de l'arrivée, si t'es Mathieu Van Der Poel, t'es pas à 100% serein quand tu vois que la Lidl s'active, quand tu vois que Benoît lance des accélérations, qu'il amène avec lui plusieurs coureurs, et que seul Jenny Vermeersch semble à ce moment-là en capacité de répondre pour Alpecin. Mais l'intelligence de Mathieu Van Der Poel, ça a été de ne pas paniquer, de ne pas se précipiter, de ne pas sauter dans les roues, d'attendre le retour des coéquipiers de l'arrière. Et à partir du moment où il a réussi à faire cette jonction, après avoir fait bosser quand même les coéquipiers qui étaient derrière, il y avait Laurence, il y avait Crowe Andersen. Il a été très malin, et quand il s'est retrouvé dans le groupe des principaux favoris, comme l'a si bien souligné Théo, là on a compris que ça allait pas lui échapper parce qu'il avait Vermeersch et il a assommé tout le monde en montrant que c'était le patron. Pedersen a couru complètement à l'envers, et je pense que la chute, évidemment, 3 jours avant, a beaucoup joué pour lui.
Je pense qu'il s'est sous-estimé sur cette course-là. Et c'est dommage de ne pas l'avoir senti pendant la course. Parce que je pense que son move, je pense qu'au départ de ce Tour des Flandres-là dimanche, je suis pas sûr que Pedersen soit la carte prioritaire de Lidl. Il part à l'abordage et je pense qu'au fil des kilomètres, il se rend compte que ça va bien. Mais malheureusement, c'était déjà parti et peut-être qu'il aurait peut-être dû se relever quand il a vu qu'il n'y avait que Vermeersch avec lui et qu'il ne passait pas un relais. Et il s'est épuisé Vermeersch au marquage. Ça ne servait pas à grand-chose de poursuivre ce mouvement-là, quoi.
Après, pas un
Je suis
relais, mais
d'accord.
Vermeersch a essayé de passer quelques relais pour les maintenir à 10, 15, 20 secondes pour essayer
Oui, c'est ça.
d'épuiser au
Tant que tu
maximum.
avais ce petit matelas-là, ça faisait travailler en plus les autres équipes. Donc c'était tout à l'avantage d'Alpecin. D'avoir Vermeersch et en plus de les avoir à 30 secondes, 20 secondes.
Et une fois Pedersen avalé, c'est le Koppenberg donc, qui s'est dressé devant les coureurs. Première question par rapport à ça, avant de parler du numéro de Mathieu Van Der Poel derrière. Jérémy, est-ce qu'il fallait garder ce Koppenberg? Grosse discussion, bien sûr, quand on a vu les coureurs descendre un à un de leur vélo pour monter le Koppenberg à pied. Il y a eu beaucoup de discussions, il n'était pas vraiment praticable. C'était un peu une patinoire, plus pour les garçons que pour les filles d'ailleurs. Est-ce que tu comprends ce questionnement?
Non, je ne comprends pas ce questionnement. Moi, je ne comprends pas pourquoi on remet en question la présence du Koppenberg sur ce parcours. Je vais te donner plusieurs arguments. Déjà, est-ce qu'on enlève Arambert ou est-ce qu'on projette d'enlever Arambert sur Paris-Roubaix les années où il pleut et où il y a des chutes? Et il y a des chutes à peu près tous les ans. Donc cette année, j'ai vu, ils ont mis une chicane pour qu'on y arrive moins vite, mais ça va quand même tomber avant, après, pendant, peu importe. Koppenberg, c'est un des monuments parmi les monts flandriens sur le parcours du Tour des Flandres. On nous a déjà enlevé le mur de Grammont et le Bosberg en modifiant le final. Moi, j'ai pas envie qu'on touche trop à l'ADN de ces courses. Et puis, ceux qui ont voulu passer, ceux qui avaient la capacité de passer, l'ont fait. Alors, ils n'étaient pas beaucoup. Mais je te rappelle aussi que tous les ans, au début du mois de novembre, il y a un cyclocross qui est organisé sur les pentes du Koppenberg dans des conditions qui sont parfois bien pires que celles qu'on a eues dimanche. Et la plupart des coureurs s'adaptent via du matériel, via des reconnaissances. Alors oui, ce sont des crossman, mais à partir du moment où certains sont capables de passer et pas d'autres, ce serait injuste de les priver de cette capacité-là.
Cette saison en hiver a bien servi hein, pour Van Der Poel qui a réussi à passer sans encombre le Koppenberg. Peut-être que les autres vont devoir s'y mettre, Jérémy. C'est pour ton plus grand plaisir d'ailleurs.
Des années qu'Antoine Nicolas et Steve Chenel le
Ouais, mais bon.
disent, et au vu de ce qui se passe, on est un peu obligé de les croire parce que même sur la course féminine, celles qui ont le mieux passé les bosses, c'était Puck Peeters, c'était Sharon Van Amrooy hein, et Marianne Vos notamment. Donc oui, on est obligé d'avoir ce constat-là.
Après, si on écoute tout ce que dit Anthony Nicolas, on est vraiment mal barré.
Pas tous,
Oui,
faut
pas
faire le
tous.
tri, faut faire le
Ah,
tri.
y a un gros tri à faire.
Un compost.
Théo, toi, par rapport à ça, est-ce que tu as des arguments pour ou contre d'ailleurs?
Non, mais je trouve que le débat n'a même pas lieu d'être parce que si vous me corrigez si j'ai tort, mais ça vient de quelques tweetos qui s'étonnent de mise à pied de quelques coureurs, mais je suis pas, enfin, j'ai vu aucun coureur qui s'est érigé contre l'impractibilité prétendue du monde. Donc non, Je sais pas ce
fait
que.
des années qu'on connaît le Koppenberg, hein, qu'on sait
Ouais.
que certains coureurs
C'est
mettent
que c'est
pied à
comme
terre,
ça
ça
et.
passe, ça passe pas.
Ouais.
Voilà, quand les acteurs s'en plaignent pas, je suis pour qu'on ne fasse pas de débat.
Ce qui n'est pas cas pour Aramberg. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on on discutera de Paris-Roubaix. Bon, après, ensuite, c'est le moment où Mathieu Van Der Poel s'est envolé. Derrière, la concurrence n'a pas réussi à suivre. Un numéro en solitaire, encore une fois, Théo, de Mathieu Van Der Poel qui allait s'imposer sans grande difficulté. Enfin, sans grande difficulté, il avait dit quand même qu'il ne fallait pas 5 km de plus. Mais bon, c'était la stratégie adoptée. Derrière, Jorgensen n'était pas très loin, mais il ne fallait pas l'attendre.
Ouais, puis je pense qu'il a dégoûté de toute façon sur le Koppenberg tout le monde et que Jorgensen, si tu regardes un peu au sommet, il passe pas très loin, hein. Il est à 7-8 secondes. Mathieu, il creuse, mais on parlera peut-être plus tard, mais c'est pas pour moi, c'est pas l'édition où Van der Poel était le plus aérien. Donc certes, il gagne parce qu'il y a une concurrence qui est peut-être un peu plus faible cette année. Mais derrière, alors certes, je pense que Jorgensen, il a connu une grosse fringale parce qu'après, il finit très très loin. Mais sur l'accélération brute, je suis pas sûr qu'il était quatre jambes au-dessus des autres, certes, mais pas quatre.
Jérémy, tu as eu la même impression en regardant le Tour des Flandres, Van der Poel pas aussi aérien que l'on pouvait l'espérer ou le penser?
Je suis assez d'accord avec Théo. Alors maintenant, je pense qu'il faut pas sous-estimer non plus la difficulté globale de l'épreuve, de par les conditions, de par aussi l'intensité et le rythme qui a été mis très loin de l'arrivée, justement pour essayer, quand on imaginait que c'était encore possible, de mettre en difficulté Mathieu Van Der Poel. Et j'en veux pour preuve des coureurs qu'on a vus à certains moments aux avant-postes qui ont disparu, et d'autres qu'on n'a pas vus de la course et qui, arrivés au sprint final, font podium. Donc oui, ça a été une course qui a permis à certains de se mettre en lumière, comme Matteo Jorgensen. Mais Jorgensen est rentré dans le rang parce que sur la durée, sur la dernière heure de course, bah, il reste plus que les vaillants. Mais je suis d'accord. Van der Poel a été, je pense, plus fort par le passé sur d'autres éditions du Tour des Flandres. Mais sans Wout, sans Pogacar, on se doutait que ça allait se finir comme ça. Mais c'est jamais facile de gagner une course quand tu es le favori numéro 1 et que tu as tout le monde à tes trousses. Maintenant, sur l'aspect tactique, je vais te répondre quand même très rapidement. Fallait-il attendre Jorgensen ou non? Il aurait pu, en sachant qu'il était supérieur au sprint, mais en ayant la garantie que Jorgensen passe, et je pense qu'il ne l'avait pas. Et si tu as un Matteo Jorgensen qui, dans les 20 derniers kilomètres, ne te met pas un coup de pédale, bah, si tu le sors pas dans le vieux Coirmont ou dans le Peterberg, t'es bien embêté.
Ouais, remember Asgreen, hein, il y a quelques années, où il
Asgreen
avait.
passait, Asgreen passait. Hein.
Ouais, mais bon, on savait à l'époque que Mathieu Van Der Poel était plus rapide, et finalement, il a été battu dans cette dernière ligne droite. Bon, on parlera des autres coureurs qui ont fini dans les top 10, dans le top 20, les satisfactions, les déceptions, notamment Mozzato, hein, qui termine à la deuxième place. Mais on va rester sur Mathieu Van Der Poel. Donc, troisième victoire, il rejoint donc au palmarès en tant que recordman de succès sur le rond de Tom Boonen, Fabian Cancellara, Eric Lehmann, Fiorenzo Magni, Johan Museeu, pardon, en tant que triple vainqueur avec 5 podiums de suite. C'est un record, hein, il faut le dire. Deux deuxième places. Est-ce que Jérémy Théo, est-ce que c'est le plus grand de l'histoire sur le Tour des Flandres? Est-ce que c'est le roi maintenant, au-dessus du lion, au-dessus des autres? Est-ce que c'est devenu le roi? Théo, tiens, on va te donner la parole.
Comme tu l'as dit, tu l'as rappelé, le palmarès, pour l'instant, il est à égalité à 3 avec des autres. Il y a une génération qu'on n'a pas connue et je me permettrai pas d'aller sur des analyses des années 40 et 50. En revanche, sur un Cancellara et un Boonen, pour l'instant, ça se discute en termes de palmarès pur. Moi, ma réponse, elle tient plus sur l'impression qu'il laisse et la marge qu'il donne à voir par rapport aux autres. Et pour moi, il est supérieur même à un Cancellara qui écœure tout le monde. Je trouve même qu'il est encore plus impressionnant que Cancellara, pas forcément cette année, mais sur les années précédentes. Et même si Boonen en gagne également 3, pour moi, il ne m'a jamais laissé cette impression de supériorité comme peut la laisser Van Der Poel. En revanche, le prochain ennemi de Van Der Poel, peut-être pour ces prochaines années, pour moi, ça peut être que Pogacar.
Ouais, qui l'a le plus embêté sur les dernières éditions, hein, vu que c'était le tenant des titres avant cette année. Donc Mathieu Van Der Poel n'a pas fait pire que quatrième, c'était en 2019 lors de sa première tentative. Alors Jérémy, tu rejoins quel camp? Le camp des pas encore ou le camp des ça y est, c'est devenu le nouveau roi?
Moi, je rejoins un peu le camp de Théo. Pourquoi est-ce qu'il faudrait impérativement départager tous ces gars-là qui ont gagné 3 fois? Si tu tiens absolument à le faire, et pour ceux que j'ai vu courir, c'est-à-dire effectivement Bonnen, Cancellara, pour moi Van der Poel c'est au-dessus, parce qu'il y a 5 podiums de suite, mais parce qu'il y a aussi cette édition 2019 qu'on oublie, mais qui est absolument
Oui,
sensationnelle. Le gars
crevaison, il chute.
tombe, revient de nulle part, et acteur du final, probablement l'un des plus forts, et il fait deux du sprint massif pour le podium derrière Christophe, et ça se joue à pas grand-chose. Donc en fait, sur les 6 dernières années, il a été au pire quatrième et à chaque fois acteur de la course et on a pratiquement vu que lui systématiquement. Il y a aussi un truc qui est important, c'est la précocité. Alors même si j'ai pas trop envie de parler de Fabian Cancellara parce que ses victoires sont quand même entachées d'un sérieux doute, lui le disait dans un article de l'Équipe qui est paru dimanche soir ou lundi matin, à l'âge de Mathieu Van Der Poel, il n'avait encore jamais scoré sur le Tour des Flandres. Mathieu Van Der Poel, il est plus tout jeune, mais il n'a que 29 ans, donc il aura encore la possibilité d'améliorer ce record. Et donc j'ai tendance à dire qu'effectivement, si c'est pas encore le cas, il n'est pas loin d'être le plus grand sur cette course.
On
Moi,
parle
si je
aussi.
pouvais rajouter quelque chose, ce serait peut-être que, en fait, si tu regardes une course, si tu dessinais une course idéale pour Mathieu Van Der Poel, je pense que tu dessinerais le Tour des Flandres, en fait, finalement. Pour moi, c'est la course parfaite pour lui qui rejoint toutes ses qualités, que ce soit technique ou physique. Je pense qu'il n'y a pas d'autres courses qui correspondent mieux à Mathieu Van Der Poel.
Ouais, Mathieu Van Der Poel, donc 3 victoires, il a
Et
encore le
Estradé
temps.
aussi, peut-être.
Les
Mais
ouais,
ça,
mais
c'est bon.
les Stradé, j'ai l'impression que
Et
c'est pas
encore, je
un
trouve qu'elles se
profil.
durcissent d'année en année, donc avec le dénivelé. Donc peut-être qu'à un moment, ça va devenir compliqué pour lui.
On rappelle donc que sur cette course, Wout Van Aert n'était pas là, donc Pogacar non plus. Il y a des anciens coureurs, je crois que c'est Eddy Merckx peut-être, qui avait dit que en fait, c'est pas une fausse victoire, mais bon, tant que les meilleurs ne sont pas là, ça manque un petit peu de piment. Je sais pas ce que vous
Les
pensez
absents ont
là-dessus.
toujours tort, hein.
Ouais,
Le
bon, ça
problème, c'est que...
c'est le dicton préféré de Jérémy, je pense, par rapport à ça. Mais voilà, pour
C'est vrai,
pas Rémi qui dira le contraire.
et si je peux me permettre encore quelque chose, Johan, on avait souligné le risque que prenait Wout Van Aert cet hiver dans sa préparation en se focalisant sur deux courses, sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. On avait dit quelque chose de clair, sa préparation et ses choix seront validés en fonction de ces résultats-là. Et le risque de ne préparer que deux courses majoritairement, ben c'est ce qui s'est produit finalement. C'est de tomber, c'est de ne pas être en forme, c'est d'être blessé, d'être malade, de passer à côté. Et aujourd'hui, un Wout Van Aert, il est encore passé à côté d'un titre de champion du monde de cyclocross comme il y a 2 ans. Alors ouais, ça a l'air de rien, mais les années passent et Wout Van Aert manque quand même beaucoup d'événements. Les absents ont toujours tort et lui, en général, choisit de ne pas être là. Alors évidemment, ce n'était pas le cas pour le Tour des Flandres et pour Paris-Roubaix, mais malheureusement, à vouloir trop se focaliser, à se mettre la pression, ben ça ne servait toujours pas trop.
Ouais, mais ces mecs-là, ils se préparent aussi avec cet objectif en tête-là. Tu vas pas te préparer pour gagner le Tour d'Andalousie, si tu veux. C'est bon.
Tu peux te préparer
Pogacar, il se
sans
prépare
sortie
pour Liège et
physique.
le Giro, et Van Aert se préparait pour les Flandres et Roubaix. Et Van der Poel, il a fait pareil. Donc, je suis pas sûr que
Surtout.
l'hyper-objectivation de Van Aert soit quelque chose de voilà. C'est une chute comme une chute aurait très bien pu arriver à Van der Poel sur le 3, par exemple.
Mais bien sûr, mais sauf que Mathieu Van Der Poel a préparé le rond des Roubaix avec la même envie de le gagner, mais il n'a pas sacrifié Milan-San Remo, il n'a pas sacrifié le titre de champion du monde de cyclocross. S'il était tombé sur le 3, il avait déjà ça à la maison.
Tiens, j'ai une petite
En partant du
question.
principe que Milan-San Remo a été gagné en grande partie grâce à lui aussi.
On parle de Wout Van Aert, tiens, très rapidement, hein, parce que je me posais la réflexion d'un coureur qui, au fur et à mesure des années, on a l'impression qu'il manque des coches. Par rapport à un Alexander Kristoff, par exemple, qui est ancien vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur de Milan-San Remo, champion d'Europe aussi. Est-ce que, à palmarès similaire, est-ce qu'on a tendance à dire Kristoff ou Van Aert maintenant? Alors que pourtant, Wout
Non,
Van Aert
ça
a
n'a
l'air
rien à
d'avoir
voir.
marqué d'une empreinte autre le cyclisme. Moi, je me pose la question parce que je me dis finalement, en termes de classique et de grande victoire, on est quasiment à équivalence, voire mieux pour Kristoff du coup, en termes de grande classique. Hein.
Pour moi, si tu parles vrai, alors si tu parles de traces qui sera laissée aux futures générations et d'impact, etc., je pense que Wout parle quand même
Ah oui.
plus aux gens. Mais en termes de palmarès, désolé, il n'y a pas photo. Christophe, il a deux monuments différents, il est champion d'Europe, il a un nombre de victoires qui doit être à 90, quelque chose comme ça.
Oui, c'est. Et j'ai pas envie qu'à la fin de la carrière de Van Aert, on dise finalement les deux au même niveau, alors qu'on sait l'empreinte qu'il a eue et qu'il a sur le cycliste. Bref, c'était autre chose. Tiens, on va parler des.
J'aimerais bien l'avis de Théo, parce que c'est peut-être un avis qui n'est pas partagé par tout le monde.
Non, moi je suis plutôt pas d'accord avec ça, parce que je pense que ce qu'on retiendra ensuite, ce sera l'impression qu'on laisse. Et. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un ici autour de ce micro qui pourrait dire que l'impression visuelle, la force, la puissance qu'a dégagé un Van Aert à son top, un Tour de France qu'a pu faire un Van Aert, soit supérieure à un niveau même d'un Christophe Prime. Alors certes, Christophe a des lignes sur un palmarès, mais c'est pareil, c'est comme on dit, je sais pas, quand tu étais meilleur buteur de Ligue 1 dans les années 2000, il y avait Alexander Frey, il y avait machin, et maintenant il y a Mbappé. Et même quand tu fais deux derrière Mbappé, mais que tu as planté 24 buts, tu es quand même d'un niveau supérieur quand tu étais meilleur buteur dans les années 2000.
Enfin, sur l'empreinte, mais si tu dois choisir un des deux palmarès aujourd'hui, sans penser à toutes les autres considérations, lequel tu préfères?
Si tu me parles juste en termes de palmarès, oui, bien sûr.
Bon.
Est-ce que Christophe est plus fort que Van Aert? Je te dis non.
Non, mais évidemment, mais il faudrait être fou pour te dire ça. Mais c'est voilà. Pour te dire qu'aujourd'hui, t'as absolument pas un palmarès en adéquation avec ce qu'il mériterait d'avoir.
Ça, on est d'accord.
Oui.
Je préfère être Van Aert que être Christophe, peut-être.
Oui, on est tous d'accord.
Ça, c'est un autre débat aussi. Mais...
Ouais, on fera un autre épisode dessus parce que je pensais pas vous lancer dans de telles discussions, mais on va essayer de parler des autres coureurs parce qu'il y avait autre chose sur le Tour des Flandres assez rapidement parce qu'il y a eu des choses à dire. Il y a des choses à dire. Il y a des bons et des mauvais points donnés. Je vous laisse donner vos bons points. Qu'est-ce que vous avez retenu, Jérémy? Qu'est-ce que tu retiens en bons points d'abord et après on fera les mauvais points.
Grosjean, ça va pas mal pour Arkea quand même, Arkea BNB Hotel, parce que Mozzato, il est sorti du chapeau,
il a fait un turgo sur Roubaix il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent. Mais,
Et Mozzato, c'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps à se débloquer, mais là quand même, ça fait quelques temps qu'il est en train de se hisser au niveau des meilleurs, donc ça fait pas mal de points aussi pour Arkea BNB Hotel, et un peu à l'instar du début de saison de Decathlon à G2R. Mais ça part plutôt bien. Ce que j'ai envie de retenir aussi, moi, c'est Théo en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est aussi de voir des coureurs de plus en plus jeunes venir performer sur des courses très compliquées. On a eu Del Toro en début de saison, mais là, Morgado qui arrive à faire top 5, c'est quand même assez phénoménal aussi.
C'est pour ça là, en plus. Hein. C'est pour vous situer un peu l'oiseau.
De quoi ?
Il dit qu'il, dans ses interviews qu'il aime pas les courses longues, enfin qu'il était mis sur les courses longues un peu de, enfin c'est pas qu'on l'a obligé, mais disons que bon c'est pas naturellement sur ces courses-là qu'il se serait dirigé pour sa première année. Donc pour vous dire quand même, c'est un garçon qui gagnait des courses par étapes chez les jeunes quand même. Donc c'est pas nécessairement sur le papier lorsqu'on Morgado commence sa carrière chez les professionnels, tu ne dis pas ça va être un leader sur les Flandres. Mais finalement, je pense que c'est un garçon capable de faire tellement de choses. Que peut-être on lui laisse le panel du choix, mais là, ça devient costaud parce qu'en plus, il a beaucoup couru quand même en début de saison. Hein. Pas trop les jours de course qu'il a maintenant, mais il a été présent depuis janvier, quoi, hein, depuis février, donc c'est costaud, clairement.
Et c'est quand même très costaud aussi, Johan, et ce qui a été assez peu souligné, je trouve, c'est que même en l'absence du tenant du titre, ils sont quand même 3 dans les 5.
Il y avait Willens qui était aussi acteur, donc il y a Bjerg, Morgado, Politz aussi qui est sur le podium. Voilà pour UAE. Autre chose que j'ai noté comme bon point, on va dire, Naesten revenu de nulle part. Hein. Là, je m'attendais pas du tout à ce Tour des Flandres, mais beaucoup en fait les deux coureurs qui ont lissé leur effort ont réussi à venir jouer les premiers.
Ouais, qu'il y a des gens qui ont pris des claques hein, quand même.
Ouais. Hein. Et on viendra avec Jurgensen notamment, mais les Bettiol par exemple, les Tuns, on pensait vraiment qu'ils allaient faire 2 et 3 ou se battre pour les 2 et 3, et finalement ça a été un peu plus dur sur la fin, même s'ils ont, pour moi, ils font partie des coureurs qui méritent un petit plus dans leur case à la fin de cette course. Voilà, donc on a eu aussi du Lawrence Rex et tout, mais tout ça aussi, ça a un petit peu, c'est un petit peu en arrière. Matthews, le déclassement de Matthews, compréhensible ou pas? Parce que sur les images en de face, oui, sur les images de haut, un peu moins pour moi.
Moi, j'ai envie de te dire oui, mais le problème aussi, c'est un peu comme dans. Désolé de reprendre le foot en comparaison, mais c'est la règle et l'esprit de la règle. Et c'est vrai que. Il y a peut-être. Après 260 km sur le Tour des Flandres, tu as peut-être un peu plus d'espace à donner à l'interprétation de la règle. Et au fait surtout qu'il ne gêne pas vraiment, finalement, ses adversaires. Même si, en effet, si tu pars d'un point A et que tu arrives à un point B, il change de trajectoire. Et c'est vrai que sur un sprint massif, juste après 180 bornes, de tout plat, c'est hyper dangereux ce qu'il fait. En revanche, là, les mecs, ils sont tous arrachés. Polyte, tu vois qu'il fait son sprint, il est complètement sec. Bon, c'est déclassé pour ça. Après 7 heures de bagarre, c'est un poil chaud, quand même.
Un peu dur pour Matthews qui avait réussi à faire une deuxième fois sa place sur le podium sur les monuments de la saison. Bon, les mauvais
Ce qui est
points.
à déplorer aussi, Johan aussi, peut-être, Jérôme, je ne sais pas si tu es d'accord, mais les Français sur cette édition-là,
Ouais.
c'est quand même pas.
On passait au mauvais point d'ailleurs avec
Ah,
donc
évident, hein.
on parle des Français Madouas qui étaient venus pour gagner. Alors bien pour gagner, mais il faut d'abord savoir se placer parce qu'il était tout le temps au fond du peloton. Certes, il a chuté, hein, il a été au sol, enfin il a été en tout cas au moins ralenti. Ça l'a pas aidé, mais voilà, Madouas compliqué. Alaphilippe, j'en parle même pas. Il finit à plus de 8 minutes à la 70e place, autour de la 70e place. Jérémy, c'est ta grande déception aussi, ou t'en as d'autres encore plus
Les
forts?
Français. Alaphilippe, pour moi, c'est pas la grande déception. Tu le sais qu'il n'aime pas ces
Il a
conditions-là. C'est
attaqué.
pas la première fois qu'il est complètement transi par le froid, par la pluie, etc. Et puis lui-même le reconnaissait il y a quelques jours. Ça va plus vite qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, à la pédale, il est plus capable de suivre des coureurs comme Mathieu Van Der Poel. Et je crois aussi que pour Julien Alaphilippe, finir 8e ou finir 70e, finalement. Il n'y a pas une grande différence. Alors oui, Pat Lefebvre aurait peut-être préféré qu'il y ait des Soudal dans les 10. Mais personne ne se souviendra d'une place d'honneur de Julien Alaphilippe. Donc bon, après, finir aussi loin, c'est anecdotique. Moi, j'avais pas tellement d'espérance et pas tellement d'espoir. Alors oui, c'est vrai, Madouas avait déjà fait podium. Mais on savait pour la gagne. Bon, de toute façon, on savait qu'il y avait Van der Poel et les autres pour la gagne, mais même par rapport aux outsiders qu'on a eu l'occasion de citer, Madouas, moi je le mettais pas dans les tout meilleurs. Donc semi-déception, on n'a pas vraiment cru, en tout cas pas moi, à une possibilité de voir un Français gagner sur cette édition. Maintenant, Madouas, c'est le premier Français, il est 16e, il n'y en a qu'un seul dans les 50. Après, il y a Hugo Page qui arrive 51e, c'est vrai que le
Ouais.
bilan, il n'est
Oh.
pas fameux, fameux, quoi.
Ouais.
Sur les équipes françaises, c'est peut-être Kung hein, pour la Groupama qui rate peut-être le coche parce que
Oh.
je
Chute au
le
mauvais
pensais, je
moment,
le voyais. Hein, il tombe, on le rappelle.
ouais. Ouais. Et la Visma, vous pensez quoi? Parce que Jorgensen a complètement pété sur la fin. Bennett, pas vraiment dans le coup aussi. Un petit peu à contre-temps. Compliqué, hein,
Ouais.
mais pourtant, on
Non, mais la
attendait beaucoup
Visma,
plus, hein.
faut quand même pas oublier un truc, c'est
C'est
que
qu'il n'y
si
avait pas
tu fais
Van
une
Aert.
équipe pour les Flandres de la Visma il y a 3 semaines, tu mets Wout, tu mets Laporte, tu mets Tratnik. Là, t'as renouvelé l'effectif à une semaine de l'échéance
Tu
et
fais
t'as fait de Jorgensen.
mets peut-être Van Baarle aussi sans être affaibli par un virus qui a collé un peu
Voilà,
tout le monde.
évidemment. Donc tu vois, t'as déjà plus de la moitié de l'équipe qui est sur le flanc et tu en viens à propulser Jorgensen parmi le favori des Flandres, ce que personne n'imaginait avant Paris-Nice, parce qu'il a gagné Paris-Nice et parce qu'il a été plutôt solide à travers la Flandre. Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire de miracle contre une équipe qui s'est structurée pour gagner cette course autour d'un leader qui est quasiment à son pic de forme et qui a récité sa partition à la perfection. Donc, est-ce que Jorgensen aurait pu accrocher un peu plus, un peu moins? Bon, bah, il a essayé. Il a essayé de suivre Van der Poel, il a explosé. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, hein.
Ouais, même si on pensait qu'ils allaient au moins pouvoir embêter un tout petit peu Van der Poel, mais personne n'a réussi à le faire sur ce Tour des Flandres masculin. Allez, on bascule chez les filles, puisqu'il y a aussi deux, trois choses à dire par rapport à ça, parce que je sais que Jérémy s'est délecté de cette course avec la victoire, donc je le rappelle, de Longoborghini. Mais plus que la victoire de Longoborghini, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est plutôt la victoire de la Lidl Trek face à l'SD Works, un petit peu cette course.
Ouais, Longoborghini, elle n'avait pas intérêt de se louper au sprint parce que c'est elle qui a ramené Nievia Doma sur Van den Rooij au sommet du Paterberg. Alors oui, c'est la leader de l'équipe, mais il n'aurait pas fallu faire 2 et 3. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans le sprint, quand on voit Nievia Doma se décaler à droite de Van den Rooij qui gêne un petit peu Longoborghini, je pense que dans la voiture Lidl Trek, il y a dû avoir 2-3 secondes de tension, mais oui, c'est un chef-d'œuvre des Lidl Trek qui ont déjà gagné Binda. Alors, c'est pas officiellement un monument, mais ça fait office de monument. Donc, oui, là honnêtement, c'était difficile à imaginer, d'autant que Kopecky venait avec l'ambition de réaliser le triplé. Il y avait Voss également, qui était en grande forme, qui avait gagné à travers la Flandre. Donc, ouais, coup de chapeau à cette équipe Lidl Trek qui, cette année, a haussé le niveau.
Ouais, et Kopecky, surprenant, hein, lâché assez rapidement, je crois, c'est dans le Koppenberg, encore une fois, où elle était très loin. Après, elle a réussi à revenir un petit peu dans la course, notamment grâce à Demi Vollering, mais très surprenant de l'avoir aussi battue, elle qui avait l'habitude de briller et surtout de survoler la concurrence. Surtout, elle visait quand même une troisième victoire, ce qui n'avait jamais été fait.
Elle n'est pas si loin à l'arrivée, hein. Elle fait quand même cinquième.
Oui.
Mais si tu m'avais demandé un pronostic avant la course, c'était évidemment Kopecky qui se dégageait, avec peut-être Marianne Vos quand même. Mais le collectif SD Works a été mis en difficulté. J'ai l'impression que Vollering, à ce stade de la saison, est moins en jambes que l'an dernier. On aura très rapidement des confirmations ou des informations puisque les Ardennaises arrivent. Bon, Rosser, malheureusement pour elle, a été victime d'une grosse chute, donc on la reverra pas tout de suite. Et Vibos, qui a quand même réalisé de gros progrès dans les bosses, a cédé dans le vieux Coirmont. Et j'ai l'impression qu'on a fait preuve tout simplement d'impuissance, que ni Vollering, ni Kopecky n'ont été capables de rentrer sur la tête de course à la pédale. C'est pas un problème de stratégie. Mais ça demande quand même confirmation sur les Ardennaises, parce que l'an passé, il n'y avait pas eu photo.
Ah oui.
Mais tu vois, moi qui étais inquiet en début de saison sur les premiers podcasts, en me disant j'ai quand même peur que SD Works écrase tout, et comme ça a été le cas d'ailleurs sur le tour de l'UAE, là je suis un peu rassuré parce que pour l'instant il y a match, et la peur de la SD Works est en train un petit peu de se dissiper.
D'ailleurs, en parlant du UAE, hein, c'est notamment vers là que se dirige Demi Vollering. Voilà, sur les informations qui ont été données, notamment lors de la retransmission de la course, avec un gros chèque qui attend pour Demi Vollering, qui quittera donc la SD Works à la fin de la saison. On note dans le chat
un
aussi.
Un gros chèque chez UAE, c'est surprenant.
Oui, c'est assez rare, hein, pour le souligner, mais bon. Voilà, Victoire Berthaud, la championne de France, qui était en troisième rideau. Voilà ce qu'on note dans le chat pour ce Tour des Flandres féminin. Allez, on avance parce que. On rappelle toujours match de Ligue des Champions 20h45 entre Lyon et Valenciennes, mais il y a aussi d'autres courses. Il n'y a pas que le football.
Attaque de Pierre Rolland, encore une fois.
Personne ne réagit.
Allez, on va parler dans On attaque pas du tour du Pays Basque, aussi la région de Pays de la Loire, avec la belle victoire de Jakob Marechko. Donc sur cette course, c'est une blague. Je sais, Théo, tu vas me taper sur les doigts.
No,
ne vous inquiétez pas.
No,
ça nous arrive aussi de nous tromper. On a le droit de rigoler. Donc la victoire de Vandenberg donc au sprint sur cette première étape. Il y a le Grand Prix de l'Escaut qui a été ajouté par Monsieur Sarakian, je suppose, parce qu'il le commande. Donc il veut. Ah non, c'est Théo qui l'a rajouté parce que comme tu le commentes, tu as besoin de te mettre en avant. Et ben pas de problème. On y viendra après. Mais d'abord le Tour du Pays Basque avec donc pas mal de choses contre la montre. Premier contre la montre, victoire de Roglic, tout le monde s'est trompé de voie, Remco a chuté, la victoire.
Bon, on n'a rien vu, donc bon.
Ouais, la victoire de la Pera aujourd'hui, donc ça c'est pas mal. Gaudu a perdu du temps à cause d'un ralentissement, à cause d'une chute. Aujourd'hui, vingtaine de secondes, alors qu'il avait fait un beau chrono. Grégoire a chuté, voilà. Vingegaard un peu reculé au classement, mais c'est une quinzaine de secondes sur Roglic. Bon, bref, beaucoup de choses se sont passées sur le Tour du Pays Basque. Qu'est-ce qu'on retient, Jérémy? Il est parti. Bah,
franchement, pas grand chose à ce stade, honnêtement, à part la chute de Pidcock.
Ah, la Pera, quand même.
Il aime pas la
oui,
Pera.
Oui, 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 la Pera, non, mais par rapport aux principaux concurrents du classement
non,
général.
Non, on n'a rien vu. De toute façon, on n'a pas vu le chrono et ensuite, c'est Roglic.
Mais Roglic, dominé Roglic.
Surtout, évidemment, il y a la Pera, mais moi, c'est surtout Pidcock. C'est quand même un petit contretemps pour lui, mais on rappelle que le gros objectif de sa saison, c'est les Jeux Olympiques de VTT et il y a encore un peu de temps.
Non, mais il y a aussi Vauquelin, de ce qu'on me dit, qui est bien sûr dans le chat, évidemment, qui a fait encore un chrono solide dans le top 10 en World Tour. La Pera qui gagne, donc les Français qui brillent au Pays Basque. Théo, sur Roglic, on avait un peu peur sur Paris-Nice. Finalement, il montre qu'il est au niveau de la concurrence, en tout cas sur un chrono de ce genre. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal.
Il montre, encore une fois, c'est 11 km et on sait qu'il a le petit bonus Espagne quand il faut rouler contre la montre. Roglic, il corrige le tir, il corrige certes le tir par rapport à Paris-Nice. En revanche, ça demande confirmation sur les étapes en ligne où c'était un peu l'inverse. On l'avait vu peut-être un tout petit peu mieux sur Paris-Nice, sur les étapes et un peu moins sur le chrono. Donc là, on va voir si ça se rééquilibre sur la semaine de Roglic. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'enseignement vraiment à tirer pour l'instant, sachant que l'étape Rennes, il me semble, est samedi. Donc,
tout à fait. samedi pour l'étape Rennes. Et tiens, bon, garde la parole, Grand Prix de l'Esco. Comment on dit en belge, en wallon? Ah voilà, voilà. Pourquoi on doit regarder la course, Théo? Pourquoi? Enfin, outre que de t'écouter.
Parce que surtout, il y a un nouveau duel Philipsen-Merlier, qui je pense c'est le. Mais pour l'instant, ce qui se fait de mieux sur la scène du sprint mondial, il y a eu quelques affrontements à Tirreno. Quelques affrontements du côté de Noquereux également, à Bruges de Panne. Donc, c'est un peu la revanche. C'est ce qui va nous tenir en haleine. Et puis, c'est un peu le. Voilà, il y a beaucoup de courses qui peuvent prétendre à ça, mais c'est un peu un championnat du monde du sprint. On est à la mi-temps de Flandre avant Roubaix. Enfin, c'est un bel entracte, quoi. C'est pas une classique flandrienne, certes, mais c'est toujours sympa à suivre. Il peut y avoir du vent. Ça peut être compliqué. Bon, il n'en annonce pas demain. Il devrait y avoir des conditions normales. Mais pour une petite heure de bons sprints, rendez-vous demain, hein, 16h40.
Il faut faire attention aussi, notamment pour Philipsen, à ne pas chuter avant un grand rendez-vous qui s'annonce Paris-Roubaix.
Ouais, mais regarde, souviens-toi, Philipsen, Van Der Poel avait emmené Philipsen l'année dernière. Hein, Van Der Poel avait ajouté le Grand Prix de l'Esco dans sa prépa à Roubaix. Ce ne sera pas le cas cette année, mais c'était passé l'année dernière, donc il n'y a pas de raison. Même si le final est toujours très nerveux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi.
Et avec comme objectif Paris-Roubaix pour Philipsen, on en parle maintenant.
Allez mon petit, on en remet là, on en remet.
Et donc, la saison pavée qui se termine en apothéose ce dimanche. Bon, il y aura encore quelques petites courses, mais c'est avec Paris-Roubaix que ça se termine, avec une nouvelle course, un nouveau monument. Mais le même favori, c'est Mathieu Van Der Poel, Jérémy. C'est le favori, l'unique.
Non, c'est pas l'unique favori, son équipe est l'unique favorite, mais j'aurais bien du mal à trancher entre Philipsen et Van Der Poel pour t'en sortir un.
Ah, pareil aussi pour toi Théo, on est sur une équivalence entre les deux.
Il est parmi les favoris, mais je pense très sincèrement que les deux courses n'ont rien à voir à prédire, dans la mesure où le Tour des Flandres, quand t'es très fort, t'as quand même 80-90%, quand t'es le plus fort, t'as quand même 80-90% de l'emporter. Roubaix, t'es quand même sur des courses avec des alternoiements possibles, des péripéties, des crevaisons, des chutes, qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de figurer normalement. Donc pour moi, il est certes dans les 4 étoiles, mais pour moi, il n'y a pas de 5 étoiles de par la nature de Paris-Roubaix même.
Et d'ailleurs, on en avait beaucoup parlé, hein. Il y avait notamment dans l'idée du côté de l'Alpecin d'avoir un Mathieu Van Der Poel, pourquoi pas aider cette fois-ci Philipsen comme ça avait été le cas inversement l'année dernière, Jérémy. Est-ce que sa victoire sur le Tour des Flandres ne va pas un petit peu changer la donne? Parce que le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix, c'est quand même quelque chose de fantastique et quelque chose que n'a pas encore réalisé Mathieu Van Der Poel, pas la même année en tout cas.
Oui, évidemment, Mathieu Van Der Poel, il a envie de réaliser le doublé, mais je crois qu'il faut pas prendre la question sous ce prisme-là. Il faut pas se dire qui sera privilégié. À mon avis, il y aura deux coureurs protégés, et selon le scénario de course, on prendra ou non la décision de favoriser l'un ou l'autre. Mathieu Van Der Poel, il aura certainement carte blanche pour faire le ménage d'ici au carrefour de l'arbre. Si à la sortie du carrefour de l'arbre, Philipsen est en meilleure position, Van Der Poel n'aura aucun problème à se transformer en coéquipier. Mais encore faut-il que ce soit le scénario rêvé pour Alpecin, que tu aies les deux dans le groupe de tête, qu'il n'y ait pas d'échappé devant, qu'il n'y en ait pas un qui est tombé, qu'il n'y en ait pas un qui est crevé, et on n'en est pas là. Donc à mon avis, chez Alpecin, il n'y aura pas de mot de tête et on trouvera très rapidement la solution.
Ah, t'es d'accord Théo avec ça? Parce qu'il a quand même fait, Mathieu Van Der Poel, une passe D déjà sur Milan-San Remo. C'est comme si on dit, c'est bon, je t'ai redonné l'appareil par rapport à l'année dernière sur Paris-Roubaix, on remet les compteurs à zéro et là c'est un peu chacun pour soi. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il y aura une stratégie et qui sera commune et surtout il n'y aura pas de problème par rapport à ça?
Moi j'ai envie de dire tout dépend de qui les accompagne dans ce fameux groupe de tête à la sortie du carrefour de l'arbre. Si tu es avec deux coureurs qui sont au sprint vraiment inférieurs sur le papier aux deux, ça m'étonnerait pas qu'en fait on joue le sprint à deux avec les deux cartes, le plus fort regagne. Alpecin est content, ils feront 1 et 2. Reste à savoir si c'est Van Der Poel ou si c'est Philipsen. Après, il y a une autre donnée à prendre en compte. C'est que certes, Mathieu Van Der Poel a prolongé pour 10 ans avec Alpecin. Philipsen est en négociation actuellement. Ah. Donc il y aura peut-être ça à prendre en compte également sur suivant tu favorises. Parce que imagine, tu sors avec Philipsen et Van Der Poel, tu dis bah les gars vous vous démerdez et il y a un problème, Philipsen termine 2. Bah, voir l'interprétation du mec alors à qui on a promis peut-être le leadership sur Roubaix. Donc, bon, voilà. Après, il y a toujours cette hype de gagner Roubaix, de faire le doublé, comme tu l'as dit. En plus, il est avec le maillot de champion du monde. Enfin, ce serait légendaire.
C'est ce qu'on me
Donc,
dit.
Il y a pas mal de choses à arbitrer quand même. Hein.
C'est ce qu'on me dit dans le chat. Hein. Gagner Paris-Roubaix avec le maillot de champion du monde, c'est vrai que c'est toujours un délice. Il t'a pas fait changer d'avis, Jérémy, Théo, avec ses arguments. La fin de contrat de Philippe Sen va pas changer la donne sur ce Paris-Roubaix. Bon, en espérant que les deux soient dans le final, parce qu'évidemment, ça, c'est encore autre chose.
Non, mais pas fait changer d'avis, mais il n'y a pas lieu de changer d'avis ou pas. C'est un argument qui est véridique. D'ailleurs, Van Der Poel, c'est sa première réaction. Hein, une fois qu'il a passé la ligne sur la Via Roma, c'est bon, j'espère qu'il restera avec nous au moins un an de plus. Et ça avait fait marrer tout le monde, parce que c'est pas la réaction à laquelle on s'attendait. Mais il faut quand même avoir bien conscience de qu'est-ce qu'est Alpecin. Alpecin, c'est l'équipe de Van Der Poel. C'est lui qui l'a fait monter, c'est lui qui en est le fer de lance pour encore 5 ans au minimum en tant que coureur et 10 ans pour la marque Canyon. Et il fait un peu, c'est un peu résumé, mais il fait un peu la pluie et le beau temps. S'il décide de faire un cadeau, il décide de faire un cadeau. S'il décide de gagner, il gagne. Le seul truc qu'il faut éviter, c'est de perdre la course. Il ne faut pas faire 2 et 3, il ne faut pas faire 4 et 5, parce que sinon, tu passes pour un couillon. Et Alpecin n'est pas Jumbo-Visma l'année dernière sur la Vuelta. Il n'y aura pas besoin de tractation dans les bus. Les deux coureurs, ils s'entendent bien, ils sont potes, ils se sacrifient l'un pour l'autre. Mathieu Van Der Poel a déjà gagné Paris-Roubaix. Donc l'année dernière, peut-être que la question se posait moins, mais là, Philippe Sen a été annoncé leader, hein, faut pas oublier, a été annoncé leader très tôt cet hiver. Alors l'appétit vient en mangeant. Si Van Der Poel est plus fort, ce sera peut-être pour lui. Mais à mon avis, il n'y aura pas de calcul, de compte d'apothicaire. T'en auras pas un qui ira descendre à la voiture comme le faisaient les Mapei pour contester. On fait pas gagner un, on fait pas gagner l'autre.
Non, mais ça dépend du scénario. Je pense que Van Der Poel aura les coudées franches pour faire, comme tu l'as dit, le ménage avant le vrai final, les 15-20 dernières bornes. Si tu vois que Philippe Sen reste collé à tes basques ou que tu reviens dans un deuxième temps avec un autre groupe, tu favorises ensuite les dessins de
Bien
Philippe Sen.
sûr.
Et en effet, moi je vois une Lidl Trek qui sera très forte aussi parce
Ah
que
oui.
pour le coup, un Milan sur Paris-Roubaix, c'est quand même pas pareil qu'un Milan sur le Tour des Flandres. Donc même si tu arrives au vélodrome, tu peux pas te prendre le risque de faire sprinter les deux alors que tu as un Trek avec toi, un Pedersen même qui peut aller très vite après 260 bornes. Donc moi je reste sur ma fin de tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépendra avec qui ils sortiront au carrefour de l'arbre jusqu'au vélodrome. Et suivant la composition du groupe, tu peux aller. Mais pour moi, le léger avantage quand même à Philipsen sur le papier.
Bon, justement, vous parlez des outsiders, on va en discuter, de savoir qui peut contester la victoire à Alpecin, qui est en route quand même vers un troisième succès dans les monuments, en tout cas sur le papier. Est-ce qu'il y aura plus de concurrence que sur le Tour des Flandres? J'espère que oui, mais qui? Donc on parlait de la Lidl Trek avec Pedersen, Milan et autres. Peut-être que la Visma, avec le retour de Laporte, aura plus de cartes. Kung, cette fois-ci, la Groupama FDJ, avec un peu plus de chance. Jérémy, tu vois qui? Qu'est-ce qui, chez toi, te donne envie de regarder ce Paris-Roubaix avec du suspense?
Oh, tu sais, même s'il n'y avait que des mecs pris à droite, à gauche, random dans le peloton, j'aurais quand même envie de regarder Paris-Roubaix. C'est pas tellement l'opposition hein, qui va me faire que je vais regarder la télé. Mais c'est difficile d'anticiper parce qu'on ne connaît pas les états de forme. On ne connaît pas les états de forme des coureurs de Visma. Que ce soit Laporte, que ce soit Van Baarle, que ce soit Kung qui est tombé, comment est-ce qu'il s'est remis? Pedersen, c'est aussi une inconnue. Donc moi, j'ai envie que tout le monde tente, que ce soit feu d'artifice, mais les pavés remettent très souvent les coureurs à leur place très rapidement. Après, il y a la part d'Alea, les impondérables. Donc on fera un premier bilan, je pense. J'ai pas envie de te dire après à Arambert, mais au niveau de Mont-Saint-Pévèle, déjà, on aura une bonne idée des forces en présence pour les 50 derniers kilomètres
À ceux qui sont là.
de ceux qui seront pas là. J'ai pas checké s'il était là, mais ça m'étonnerait qu'il y soit pas. Mais j'attends quand même aussi une revanche de Degenkolb qui l'année dernière a été un peu poussé à la
Ah ouais.
sortie, malheureusement pour lui. Je suis en train de checker s'il est là avec Bittner et Ekhoff pour l'instant. Donc oui, il y a des coureurs qui sont capables de gagner et je rejoins totalement Théo et c'est important qu'on ait ce débat-là. C'est pas Van Der Poel contre Philipsen, c'est Van Der Poel et Philipsen contre tous les autres. Elle est là, vraiment, l'opposition.
Bien plus qu'au Flandre, pour moi. Bien plus au
Flandre. Oui,
bien
sûr. Bien sûr.
Bon, je te laisse allumer la télé, Jérémy. En attendant, je donne la parole à Théo.
Ouais, qui a, pas, je regarde.
Qui a peut-être des outsiders aussi à noter. Tu as parlé de la Lidl Trek tout à l'heure, mais peut-être autre chose.
Je ne sais pas, il y aura des paris.
Oui, il y aura des paris, ouais, bah, pas sur.
Alors, je garde mon pari. Alors,
très bien.
Mais disons que pour moi, une équipe comme Ineos pourrait peser davantage que sur les Flandres, même s'ils avaient Sheffield dans le top 10. Je pense qu'il pourrait être beaucoup plus acteur. On a toujours un ou deux mecs de l'échappée matinale, si c'est un gros groupe qui est
c'est
potentiellement là dans le final aussi. Moi, j'attends un petit peu de un garçon comme Anthony Turgis, par exemple. Il a été privé des Flandres. Total fait sa première vraie flandrienne. Enfin, voilà, j'ai envie de voir un peu de revanche de sa part. Moi, je trouve... un peu plus excité quand même, c'est une course qui est plus ouverte, etc. Donc même si j'ai regardé le Tour des Flandres avec beaucoup d'appétence, tu savais quand même que tu avais 3 chances sur 4 de voir Van Der Poel lever les bras. Là, je t'avoue que y a 20 ou 30 mecs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Et encore, je suis généreux.
Oui, toujours ce point d'interrogation avant d'arriver sur Paris-Roubaix et ces fameux pavés. Tiens, on parle de la chicane d'Anvers, donc avec une nouveauté cette année à la demande du syndicat des coureurs, puisque en fait, d'habitude, on arrivait pleine bourre dans Anvers avec des arrivées à 65 km/h. Là, ils ont décidé, ils vont mettre en place une chicane pour que les coureurs puissent évidemment arriver un peu moins lentement. Est-ce que vous comprenez? Enfin, un peu plus lentement, pardon. Est-ce que vous comprenez? Jérémy, est-ce que tu comprends? À moins que ça soit un poisson d'avril. Attends, on n'est pas loin du premier.
Bah, je ne suis pas le mieux placé pour comprendre ou pas, parce que je n'ai jamais fait Paris-Roubaix. Donc,
ah bon,
si c'est une demande des coureurs, à la limite, on pourrait demander à Anthony, parce que lui, il a déjà fait le parcours sur la classique amateur. Mais si c'est une demande des coureurs, c'est forcément légitime. Mais j'attends de voir dans les faits si ça va moins tomber. Parce que si ça tombe moins dans Arambert, mais que ça tombe à l'entrée et que ça fait un strike de 150 coureurs... Bon, pas trop l'intérêt.
Pour moi, l'effet, ce serait plus un effet secondaire. C'est-à-dire que certes, ça va se durcir. T'as l'habitude que ça se durcisse à l'entrée de la trouée d'Arambert. Là, ça va se durcir, ça va sprinter pour rentrer dans la chicane enfin, en premier. Enfin, si tu veux. Donc, pour moi, c'est juste décaler le problème. Et je pense même que c'est ajouter de la dangerosité, pour moi, à quelque chose qui, certes, est historique. Certes, il se passe toujours du grabuge à l'entrée de la trouée d'Arambert. Mais je pense que quand tu t'alignes sur Paris-Roubaix, je pense que t'as pas un couteau sous la gorge pour faire Roubaix. Donc tu prends les risques que tu as envie de prendre aussi. Il y a quand même un libre arbitre du côté des coureurs. Et certes, si tu veux briller sur Roubaix, t'es obligé de prendre des risques. Et pour moi, les risques de chute dans Arambert, elles font partie de Paris-Roubaix. Et pour moi, c'est également dénaturer ce qui fait l'essence même de Roubaix. Donc je suis vraiment pas sûr de l'innovation là.
On me demande si l'info est vérifiée. Alors, a priori, on a même des propos de Thierry Gougnon.
Oui, c'est Thierry Gougnon.
Qui a dit qu'il y avait une demande de la part des coureurs. Donc, je parlais de premier avril tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on aurait pu le penser avec ce changement de dernière minute. Mais donc, voilà. Pour Paris-Roubaix, on a fait le tour. Est-ce qu'on a un quiz aujourd'hui, monsieur Jérémy, ou est-ce que c'est sur les demi-finales de Coupe de France de l'OL sur ces dernières
non,
années?
Il y a un quiz, sauf si Théo en a préparé un, parce que j'ai cru comprendre que Théo voulait...
Non, quand j'aurai le feu vert, bien sûr que...
Ah, mais tu as le feu vert, hein, il sait ce que c'est, en fait.
Ah, attends, ouais,
j'ai un quiz, si vous êtes prêts, on fait le quiz.
Ouais, moins il en fait, mieux il est, quand même, Jérémy. Donc, si tu lui proposes, avec plaisir, il pourra...
Moi, si tu me décharges, je vais pas te dire non, hein.
Et puis, tu peux même présenter l'émission, si tu veux, comme ça, on est tranquille. Alors, en attendant...
C'est comme ça, on partira à l'heure.
Ah, bah, écoute, il est 20h50,
allez, on y va.
On a 5 minutes pour faire ton quiz, les paris, ça va être plié, allez. Tu vas pouvoir regarder premier but de l'OL.
Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
Oh, j'ai pas compris la question, c'est...
Vas-y, donne tout.
Alors c'est un quiz sur le début de saison, un petit récap du début de saison au niveau World Tour. Là, il n'y a pas d'indice ou quoi que ce soit, ce sera des questions simples. Le premier qui dégaine prend le point. Et une réponse par personne et par question. Johan, s'il y a des réponses dans le chat... Vu que j'ai pas accès au chat aujourd'hui, tu me les retransmettras évidemment.
On m'a dit « Oh, ça va être bien voilà, », déjà. Donc, ça
oui,
veut dire
ça
que ça plaît.
Il y a 10 questions. quiz abordable aujourd'hui. Okay. Hein, quiz abordable. C'est plus un petit récap de ceux qui ont bien suivi le début de saison.
Ah, on n'est pas sur Discovery Channel, quoi.
Voilà. Et en absence de Anthony Colas et de Rémi Dos Santos, je m'attends à des réponses à mes questions aujourd'hui.
Ouais.
Allez, la première. Deux coureurs non européens ont remporté des courses World Tour cette année. Par course World Tour, j'entends pas les étapes, mais j'entends le classement final du World Tour. Jorgensen par deux fois. Et qui est l'autre?
Ah, j'avais Jorgensen, évidemment.
McNulty,
c'est pas bon.
Alors, dans le chat, on me dit Sarah Gigante, mais je sais.
Oh, c'est... Oui, non, mais alors, là pour l'instant, on est chaud sur les garçons. On passera chez les femmes tout à l'heure.
Tac. C'est pas facile cette histoire-là. Déjà, on est déjà battu par ta première question.
Bon, c'est trop tard. Ouais. C'est trop tard. La bonne réponse était Lawrence Pitty sur la Cadel Evans.
Ah, parce que je pensais, tu m'as dit classement général, j'étais en train de penser à tous les courses par étapes du début de l'année, mais bon, c'est. Voilà, tu m'as trompé.
C'est bien de penser, mais le mieux, c'est de trouver les bonnes réponses.
Oui, ouais. Bon, j'ai trouvé une excuse.
On va passer à Grand Wevel Game. On a eu une belle bagarre entre Pedersen et Van Der Poel. Qui fait 3?
Jordi Meus,
premier point pour Théo. Alors, je vais un peu modifier l'intitulé de ma question puisque je l'ai préparé cet après-midi et qu'entre-temps, Paul Lapeyra a gagné. Mais avant Paul Lapeyra, quel était le dernier Français vainqueur en World Tour? Mais cette fois-ci, on compte les
Axel
étapes.
Axel Laurence.
Mais non, mais attends, Axel, il n'avait pas fini la question.
Axel Laurence, ça fait 2-0. Toujours en comptant les étapes, tout compris, et en World Tour chez les hommes, quel pays a le plus gagné cette année en World Tour?
Le Danemark.
Mauvaise réponse. L'occasion de revenir pour Johan Tritz et pour le chat.
Qui a plus gagné, je dirais, la Belgique.
C'est un point pour Johan Tritz. 2-1. On passe à quelques questions sur les femmes. Qui est leader du World Tour?
Leader du World Tour, c'est Longoborghini.
Non. Mauvaise réponse de Johan Tritz.
Ce n'est pas Longoborghini. Ok, très bien. Moi, j'ai des propositions dans le chat, mais j'attends la réponse de Théo. Si jamais il se trompe, j'attends une réponse au moins de Théo. S'il a rien, j'ai celle qui a le maillot de champion du monde sur les épaules. Et,
c'est ça. C'est le Tokopeki. Okay. Un point pour le chat. Tiens, une question sur le calendrier du World Tour Femmes. Mis à part Roubaix et le Tour, quelle est l'autre épreuve World Tour organisée en France?
Attends, t'as dit Roubaix et les...
quoi?
Roubaix.
Il y a trois épreuves World Tour en France. Le Tour de France,
ouais.
Paris-Roubaix.
Et la troisième. Le truc en Bretagne, c'est l'équivalent du Grand Prix de Plouay, mais chez les femmes. Je vais le voir dans le chat.
Je te le donne. La classique en agglomération, le Grand Prix de Plouay.
Ah ouais, voilà, j'avais pas ça.
Ça fait 2-2-1. On en a parlé tout à l'heure brièvement. Marianne Vos a remporté le Het Nieuwsblad, qui est World Tour. À travers la Flandre n'est pas World Tour, mais surtout Marianne Vos. Elle a atteint un chiffre assez phénoménal.
250.
Combien de victoires en carrière?
250.
250, effectivement, ça fait 3 points.
Allez.
Pour Johan Tritz.
Merci le cyclisme féminin. Là, je suis en train de dégoûter Théo.
Question bien plus compliquée, ce sera la dernière concernant le cyclisme féminin. Une autre ancienne championne du monde, élite de cyclocross, donc autre que Marianne Vos, a fait top 5 du Het Nieuwsblad, top 10 de Gent Wevelgem et top 15 du Tour des Flandres. Qui est-ce?
Van Empel?
Non, mauvaise réponse. Surtout, c'est la championne actuelle, Van Empel.
Oui, mais bon, c'est une championne, peut-être que tu... Voilà. Bon, bref. Je te dis si sur le chat, ça réagit. Pour l'instant, il n'y a rien. Brandt, on me dit. Lucinda Brandt.
Non, c'est bien tenté, mais c'est pas elle.
Non, pas d'autre... Enfin, on a eu deux fois Brandt. Moi, j'ai pas de deuxième solution. Ancienne championne...
Une ancienne championne du monde.
5 secondes, ouais, c'est pas la plus connue, mais elle figure notamment au palmarès de la ronde de Moucron qui se déroulait hier. Et elle court pour la Lotto Destiny. J'ai donné beaucoup d'indices, mais à mon avis, ça ne vous aidera pas. La bonne réponse était Talita De Jong.
Alors là, non, mais là, mes respects à Talita De Jong, je n'avais pas.
Deux dernières questions, donc tout est encore possible. Sur le Tour du Pays Basque, qui est le tenant du titre?
C'est Roglic?
Non. Mais non, pas Roglic.
J'ai confondu avec.
Merde.
Avec Catalogne. Dans le chat, on a donné Vingegaard.
Vingegaard, effectivement.
Eh oui.
Si je ne me trompe pas, ça fait 3-2-2. Oui. Et donc, la dernière question sera déterminante. Elle prévaut. Donc, n'importe qui trouve remporte ce quiz. Deux coureurs sont co-recordman de victoire au classement général du Tour du Pays Basque. Il m'en faut un.
Alberto Contador.
Alberto Contador, 4 succès. L'autre était plus difficile. C'était José González, que j'avoue, je ne connais pas. Mais Alberto Contador me suffit. Et victoire de Johan Tritz.
Merci beaucoup. Merci au cyclisme féminin. Et merci à ma connaissance de Jérémy qui, à mon avis, quand il a sorti ça, je me suis dit, il y a des grandes chances pour que ça soit Contador. Je n'avais pas le nombre de succès, mais je sentais que c'était ça. Donc, pas forcément la culture vélo aujourd'hui, mais bravo. Théo et bravo, Tchad. Vous avez été des concurrents féroces, mais évidemment, c'est facile pour moi. Bon, on passe sans transition Paris parce qu'on n'a pas non plus le time.
Ouais.
Ah, c'est même pas vrai.
Bon, il y a un grand mec qui est Paris, c'est vrai.
Très simple, je veux que vous me sortez un coureur qui va, on va dire peut-être podium, voilà.
Ouais, podium, c'est bien, ouais.
Un coureur podium, voilà, c'est votre chouchou de ce Paris-Roubaix, on va partir là-dessus, celui sur qui vous mettez quelques piécettes sur Paris-Roubaix.
Un safe et un risqué, c'est ça que tu dis.
Allez, vas-y, fais genre une petite, grosse et petite cote.
Une grosse cote et une... ok.
Morgado pour toi, ça on sait, ça c'est bon, ça c'est réglé.
Non.
Jérémy, est-ce que t'as aussi... Moi, j'ai déjà, mes deux, est-ce que vous voulez que je les donne maintenant? Oui, bon,
vas-y,
je les donne maintenant.
Ouais.
Alors moi, j'ai comme Lascano, je pense que c'est parti quand même dans les petites cotes parce que j'aime beaucoup Lascano. Et dans la grosse cote, moi, je pense que Jonathan Milan va être féroce, vraiment. Parce que voilà, Jonathan Milan, je l'ai vu rouler comme un buffle et s'il n'y a pas de problème,
j'aurais inversé les deux. Moi.
Bon, Milan dans les ceux à mon avis qui vont être dans les favoris. Je vais regarder en attendant les cotes, mais voilà. Et Lascano, bien sûr, qui s'est complètement planté sur le Tour des Flandres, mais on espère revenir sur Paris-Roubaix. À vous, messieurs. Alors, Milan est à 35, fait partie des 8 favoris. Et Lascano,
il
est beaucoup plus loin,
ou
à 60.
Sur le podium ?
Sur la victoire. Mais après, ça donne aussi un peu le podium. Et Lascano est à 60. Voilà, si vous voulez mettre quelques pièces. On me demande si Del Toro est au départ. Bon, non.
Je vais te donner un nom sans conviction, surtout parce que je ne connais pas le... Il est tout seul pour l'instant sur la startlist provisoire de son équipe et je ne connais pas ses coéquipiers. Ça peut être déterminant. Mais un gars qui a de la puissance et qui a été plutôt bon sur le rond.
Ah, putain, il va me prendre le mien. Il va me prendre le mien, ce bâtard.
T'as dit qui ?
Voilà. Je suis à Tarling.
Ah, Tarling. Dino, c'est vrai que t'en as parlé tout à l'heure. Tarling, bah, tu peux prendre le même, c'est pas grave. Hein. Tarling, je suis en train de chercher. Il est quand même bien classé.
Mais
il a 40.
Sans conviction, hein. C'est difficile de se projeter parce que même un Polite, hein, Polite, il a déjà fait podium de Roubaix. Là, il fait 3, bon, 4, mais 3 du ronde. Il sera pas loin non plus, je pense. Hein.
Donc Tarling et Polite, voilà, pour tes deux coureurs. Polite qui est à 25, ouais. Qui fait partie des 4-5 favoris des Gamecop et très haut aussi après sa démonstration l'année dernière. Théo, pour conclure.
Alors, sur un safe, j'irai sur podium de Stefan Kung.
Ok, très bien.
Et sur un risqué, j'irai sur un top 5 ou sur un top 3 de Alex Segar.
Ah, d'accord. Alors là, vraiment, c'est une quoi. Segar, il est trop loin. Je ne vais pas pouvoir le chercher. Il est trop loin.
On s'en reparlera la semaine prochaine.
250 pour la victoire, en tout cas. Ouais. On espère que tu auras raison. Tu pourras te vanter au prochain épisode de ça déraille avec le débrief donc de Paris-Roubaix. Merci, messieurs. On s'arrête là-dessus. Bon match à Jérémy. Bon appétit à Théo, qui doit avoir très faim.
Merci.
On en a parlé avant l'épisode. Mmh. Et merci à vous dans le chat d'avoir participé une nouvelle fois. Et à la semaine prochaine. Salut à tous.
Salut tout le monde.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.